Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble qui est d'ailleurs la première de l'année, donc bonne année. Voilà, alors on va pouvoir cette semaine parler du groupe GB9. On aura ensuite trois mangas des éditions Kana. Alors on aura la présentation du manga Jardin Secret, la chronique du volume 7 de Boruto Naruto Next Generations. Et ça sera pas tout à fait un manga, on parlera de la bande dessinée Capitaine Albator Mémoire de l'Arcadia, qui est donc paru aussi aux éditions Kana. On aura ensuite pas de sortie manga de la semaine, puisque c'est juste la rentrée, donc les sorties ça sera pour dans deux semaines, je crois. Voilà. En attendant, on parlera aussi de culture, on continuera à parler des légendes urbaines japonaises terrifiantes inspirées d'histoires vraies. Donc cette semaine, je vais vous parler de Okiku, la poupée aux cheveux qui poussent. Flippant. Et le sacrifice humain du château de Maruoka. Voilà. Pour vous mettre dans le bain. Après, on parlera d'une petite actualité au Japon avec des usines à légumes qui se construisent donc en ville pour remplacer la campagne. Et enfin, on finira avec une petite news musicale concernant le groupe ONF qui sera à Paris en avril 2020. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Winter Love Song de Kanjani 8. Et on viendra juste après pour parler du groupe GB9. Voilà, c'était deux saisons, c'était Winter Love Song de Kanzani 8. On passe maintenant à la présentation du groupe GB9, de leur vrai nom Gilgu Bungu. Alors c'est un groupe sud-coréen de genre ballade soul qui a fait ses débuts en 2013 et qui est toujours en activité. Ils sont sous les labels Music Works et WS Entertainment depuis 2003. Ce groupe se compose de deux membres, on a Gilgu et Bungu, donc le nom du groupe, qui sont tous les deux au chant. Leur apparence unique et leurs superbes compétences vocales ont intrigué de nombreux fans de K-pop ainsi que les médias. Ils ont fait leur début avec Going Crazy, une ballade puissante à travers laquelle ils abordent le thème de la rupture amoureuse. Le groupe existait depuis 7 ans de façon non officielle, donc ils étaient choristes pour Lee Seung-gi, Lee Soon-hee ou encore Lee Seung-chul. Ils ont également écrit les paroles de diverses chansons comme Father d'Lee Soon-hee ou We Never Go Alone de K-Will. En tant que GP9, ils ont aussi participé à de nombreuses bandes-sons, notamment pour les dramas The Musical, Rooftop Prince ou encore My Girlfriend is a Gumiho. À cause de problèmes de management, ils ne débutent donc officiellement qu'en 2013, alors qu'ils évoluaient déjà dans l'industrie depuis près de 10 ans. Donc côté discographie, on a un mini-album, Dala, qui est sorti le 12 août 2014. On a aussi 15 digital singles. Le premier, c'est Rooftop Prince OST partie 3, qui est sorti le 27 avril 2012. Et le dernier, Are You Human, pour l'OST partie 6, donc qui est sorti le 16 juillet 2018. Ils ont participé donc à 5 OST. On a Cunning Single Lady et Trot Lovers qui sont sortis en 2014, Chief Kim en 2017, ainsi que Black Knight et Are You Human, Human en 2018. Et donc ils ont interprété 6 génériques de drama. Donc on a I Hope It's Breeze pour The Woman Who Married 3 Times, With You pour Black Knight, Will You Love Me pour Chief Kim, For the First Time pour Are You Human, Propose pour Suite, donc pas la série Suite avec les avocats à tous, c'est la version coréenne, et Alone pour le drama Cross. Voilà, donc du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de GB9. On commence avec Remember Me qui a servi pour l'OST du drama Trot Lovers, et on reviendra juste après pour parler du manga Jardin Secret.
Ooh.
Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
For the first time, 우연인 듯 다가와 운명처럼 머문 사람 그 사람이 아름다워서 For the first time.
C'est GB9 avec la chanson For the First Time qui a servi d'opening pour le drama Are You Human. On passe maintenant à la présentation du manga Jardin Secret du titre original Takane no Ransan. Alors c'est un shoujo de genre comédie, romance, vie scolaire, tranche de vie qui a été écrit par Amitsu et prépublié dans le Besatsu Friend. La version japonaise est parue en 2017 aux éditions Kodansha avec un total de 7 volumes, la série étant toujours en cours. La version française est parue le 19 avril 2019 aux éditions Kana, avec pour le moment 3 tomes de sortie. Donc vous pourrez retrouver Jardin Secret dans le commerce pour un prix de 6,85€. L'âge conseillé pour le lire est de 10 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, Ran est un modèle à suivre, sérieuse, studieuse, qui prend soin de sa santé. De l'autre côté, il y a Akira, solaire, naturel, franc et amical. Ran découvre par hasard le secret de ce garçon. Il est en fait fils de fleuriste et il aime travailler au magasin de ses parents. Il sait déjà qu'il veut exercer ce métier plus tard, mais il n'ose le dire à personne de peur que les autres garçons se moquent de lui, comme lorsqu'il était au collège. Leur intérêt commun pour les plantes va les rapprocher par passion et plus. Donc découvrez le langage des fleurs et leur importance dans une histoire feel-good, attachante et rafraîchissante. Assistez à la naissance d'un nouveau genre d'héroïne, une petite fleur inatteignable et pourtant toute douce. Donc il s'agit aussi du titre idéal pour un premier shoujo, donc c'est parfait comme cadeau si vous avez besoin de faire un cadeau à votre fille, à votre petite sœur, même à une amie, hein, c'est très bien, moi j'ai beaucoup aimé, hein, pas besoin d'être petit pour apprécier Jardin Secret. Voilà, donc à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kuroi Torikago de Kanon Wakashima. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 7 de Boruto Naruto Next Generations. C'était Kanon Wakashima avec la chanson Kuroi Torikago. On passe maintenant à la chronique du volume 7 de Boruto Naruto Next Generations. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantasy qui a été écrit par Kodachi Ukyo, dessiné par Ikimoto Mikyo à partir de l'œuvre originale de Masashi Kishimoto et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 10 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 7 tomes. Ce volume 7 est sorti le 6 septembre 2019 au prix de 6,85€. Le résumé de ce tome, Boruto rencontre Kawaki, un garçon qui porte le même sceau Kama que le sien. Mais Kara, le groupe de personnes à la poursuite de Kawaki, le retrouve. Lors de l'affrontement, Kawaki semble en mauvaise posture. Donc au cours de leur mission, la troupe de Boruto tombe sur un jeune homme ayant perdu connaissance. Lorsque celui-ci se réveille, il se montre belliqueux. Mais rapidement, il est attaqué par un homme largement équipé d'outils technologiques ninja. Nos héros lui viennent en aide, mais il se montre bien peu reconnaissant. Il sera amené au village de Konoha, où Naruto va l'héberger, ce qui va grandement agacer Boruto. Donc nous sommes déjà au volume 7 et on a l'impression que la série a vraiment du mal à se lancer. qu'elle en est toujours au point où elle place ses pions pour la suite. Mais enfin, ce tome fait faire un bond à l'intrigue, et ce pour plusieurs raisons. Donc, en premier lieu, il introduit un personnage clé qui sera sans nul doute le grand rival de Boruto, un garçon antipathique au lourd passé qui a du mal à se confier et surtout du mal à faire confiance aux autres. Le modèle est évident, c'est le Sasuke de la seconde génération. Ensuite, l'organisation Kara se dévoile un peu plus. Nous découvrons de nouveaux membres, mais surtout leur leader, celui qui a contribué à faire de Kawaki celui qu'il est devenu. Un personnage sombre qui ne semble pas si mauvais que ça au premier abord, mais qui cache une froideur incomparable. Pour le fanservice, mais pas que, on insiste à un conseil des 5 Kage, et ça fait plus que plaisir de tous les retrouver, de revoir des personnages qu'on a suivis si longtemps, de les voir évoluer de la sorte, même si ici, ils ne jouent qu'un rôle mineur. Naruto, de son côté, va quelque peu voler la vedette aux autres personnages, en rappelant au lecteur ainsi qu'à Kawaki à quel point il est redoutable et qu'il n'a pas usurpé son titre de Hokage. De son côté, Boruto est toujours aussi agaçant, il passe son temps à râler, à vouloir se battre, c'est assez lourd. Mais le problème, c'est que bien des choses sont lourdes ici, à commencer par les échanges entre les personnages qui, au lieu de s'écouter, préfèrent tout régler par l'affrontement. Le manque de subtilité est également flagrant, entre le copier-coller incessant avec Naruto et cette volonté de forcer à présenter Kawaki comme le futur rival de Boruto, cela n'apparaît pas naturel, mais bien forcé, bien trop appuyé pour passer tout seul. Ce tome est déjà plus intéressant et plus prenant que les précédents, mais on a du mal à s'enlever l'idée que c'est du copier-coller, que tout ce que tente l'auteur, on l'a déjà vu dans Naruto. Mais malgré tout, on a quand même envie de laisser sa chance à la série, car même si nous sommes déjà au volume 7, peut-être que les auteurs parviendront à s'émanciper de leur modèle. Donc c'est déjà mieux, donc on peut peut-être être agréablement surpris par la suite. À noter qu'on trouve en bonus avec ce tome, un extrait de la nouvelle série de Masashi Kishimoto, il s'agit de Samurai 8 Hachimaduren. Voilà, je crois que les deux premiers tomes sont déjà sortis aux éditions Kana si ça vous intéresse. Voilà, donc du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Baton Road de Kanabun qui a servi de premier opening pour l'animé Boruto Naruto Next Generations. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les légendes urbaines japonaises.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Kaori Iida avec la chanson Ira Irato. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des légendes urbaines japonaises terrifiantes inspirées d'histoires vraies. On commence avec Okiku, la poupée aux cheveux qui poussent. Donc en 1918, dans la région de Hokkaido, tout au nord du pays, un jeune homme de 18 ans fit l'acquisition au marché d'une poupée pour sa sœur cadette Okiku. Donc elle l'avait choisie car elle lui ressemblait beaucoup avec sa coupe au bol Okapa qui était très à la mode à l'époque. La petite fille adorait sa poupée à tel point qu'elle l'emmenait absolument partout avec elle et qu'elle ne pouvait s'endormir sans elle. Hélas, quelques mois passèrent et la fillette décéda des suites d'une maladie. Donc ses parents décidèrent alors de prénommer la poupée Okiku afin de lui rendre hommage et l'installèrent sur l'autel funéraire de la maison. Cependant, peu de temps après, la famille se rendit compte d'un phénomène étrange. Les cheveux d'Okiku, la poupée, semblaient pousser et même lorsqu'ils tentaient de les couper, ceux-ci repoussaient de plus belle. Face à un événement aussi traumatisant, avouez que ça vous ferait flipper, vous coupez les cheveux de votre Barbie, pouf, ça repousse. La famille d'Okiku a donc décidé de léguer la poupée au temple Manenji, situé dans la ville d'Iwamizawa. Donc aujourd'hui, elle y est toujours exposée, et les scientifiques qui se sont penchés sur l'histoire sont formels. Les cheveux de la poupée sont des cheveux humains, donc raison pour laquelle ils poussaient encore. Donc avouez que c'est encore plus flippant d'avoir une poupée avec des cheveux humains. Hein, vous savez pas à qui ils appartiennent, mais voilà. Voilà. Alors, la deuxième histoire, c'est le sacrifice humain du château de Maruoka. Donc, le Itobashira est un sacrifice humain qui a été pratiqué au Japon jusqu'au XVIe siècle. Il consistait à enterrer ou emmurer des personnes vivantes sous ou près de bâtiments de grande envergure comme des barrages, des ponts et des châteaux, en guise de prière aux dieux afin que la construction en question ne soit pas détruite par des catastrophes naturelles ou par des attaques ennemies. On est un peu dans l'attaque des titans. Alors, le château de Maruoka à Sakai, dans la préfecture de Fukui, abrite l'un des récits de Itobashira les plus célèbres. Lors de sa construction, un des murs ne cessait de s'effondrer, peu importe la façon dont il était renforcé, la construction finissait toujours par céder. Donc il a été décidé qu'une femme servirait de sacrifice pour apaiser les dieux, et c'est une certaine Oshizu qui a été choisie. Elle a accepté de servir d'offrande et d'être emmurée vivante à une seule condition, que l'on fasse de son fils un samouraï. Donc Oshizu a donc subi le rituel de Itobashira, mais la promesse qu'on lui avait faite à sa mort ne fut quant à elle jamais respectée. Depuis tous les ans, à la même période, les douves du château sont inondées. Donc au Japon, on prétend que ce sont les larmes de l'âme défunte d'Oshizu qui causent cette catastrophe. Voilà, on continuera avec ces histoires flippantes la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter la chanson Itsu no Manika Shoujowa de Kaori Mochida. Et on reviendra juste après pour parler de Capitaine Albator, mémoire de l'Arcadia.
いつの間に
C'était Kaori Mochida avec la chanson Itsumanika Shoujowa. On passe maintenant à la présentation de la bande dessinée Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia. J'ai envie de laisser le bed et de juste pas parler en fait. Voilà. Parce que je l'ai écouté ce matin, je me suis dit, oh, Albator, c'est vraiment quand même la vie. J'avais envie de regarder tous les animés et tout. Mais en attendant, on va parler donc de cette bande dessinée française de genre action-aventure-science-fiction qui a été écrite par Jérôme Alquier à partir de l'œuvre originale et sous la supervision de Leiji Matsumoto. Donc elle est parue le 28 juin 2019 aux éditions Kana dans leur collection classique, avec pour le moment 2 tomes de sortie sur 3 qui sont normalement prévus. Vous pourrez retrouver Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia dans le commerce pour un prix de 11,99€, l'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus. Et il existe plusieurs autres adaptations, dont la série originale en manga, qui est parue aux éditions Kana en 5 tomes, puis en édition intégrale en un seul volume en 2013 au prix de 25€. C'est vraiment un must-stock de... comment dire... de édition intégrale, voilà. C'est vraiment un gros tome. Alors, le résumé de cette bande dessinée dans cette aventure inédite du Capitaine Albator. Une équipe de scientifiques a découvert un mausolée de Sylvidre et des informations où il est fait mention de manipulation génétique et d'un pouvoir destructeur terrifiant. Une vague de froid extraordinaire frappe la planète bleue et elle pourrait bien être liée à l'une de ces Sylvidres mutantes. Le capitaine Albator et son équipage parviendront-ils à élucider ce mystère et à sauver la Terre de ce nouveau péril ? Voilà, donc si comme moi vous adorez les Sylvidres, vous allez adorer cette bande dessinée. C'est vraiment magnifique en plus parce que tout est en couleur. Donc c'est pour ça que c'est un peu cher, mais franchement, ça vaut le prix. Donc, Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, à retrouver aux éditions Kana. On peut laisser le bête jusqu'à la fin, hein, moi ça me gêne pas. Ouais, ça suffit. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller revoir tous les animés et vous écouter toutes les OST si ça vous intéresse. Moi, je fais ça dès demain. Alors, en attendant, on va s'écouter Ikari no Prélude de Kaori Oda et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas passé, ça m'avait manqué. Donc Maru Maru Moli Moli de Kaoruto Tomoki et Tamani Munku. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Des salades cultivées par des automates sous des lumières artificielles, aux abords de villes japonaises, sortent de terre des usines à légumes automatiques. Pour combler les manques d'une campagne dépeuplée et à la merci de catastrophes naturelles à répétition. Donc c'est un bâtiment banal au milieu d'une zone industrielle et pôle de recherche entre Kyoto et Osaka, dans l'ouest du Japon. Rien de l'extérieur ne laisse imaginer que grandissent dans ces locaux de la société Spread quelques 11 millions de pieds de laitue par an, dont 30 000 sont expédiés par jour, avec seulement 25 employés. Donc tout se joue derrière une vitre, dans une salle aseptisée, pleine de très grandes, longues et larges étagères. Des automates y transbahutent des salades d'un espace à l'autre, à longueur de journée. Au fur et à mesure qu'elles grossissent, elles rejoignent des emplacements dont les conditions de luminosité, de température et d'hygrométrie sont adaptées au stade de leur croissance. Et le tout sans pesticides ni terre, uniquement avec de l'eau enrichie de nutriments. Avec le Danemark, le Japon est depuis des décennies un pionnier du laborieux développement des usines à légumes en lumière artificielle, Donc des géants comme Panasonic, Toshiba, TDK ou Fujitsu s'y sont risqués avec plus ou moins de réussite en convertissant des lignes de production de semi-conducteurs en fermes verticales et en concevant des éclairages, capteurs et autres technologies dédiées. Reste que Spread, dont la maison mère est à l'origine une firme de logistique de primeur, est l'une des rares à avoir su rentabiliser l'affaire. Donc au début, les salades avaient du mal à se vendre, mais cela a été relativement aisé de se créer une bonne image de marque pour attirer le client, car nous pouvons produire une même qualité au même prix tout au long de l'année, explique Shinji Inada, le patron de l'entreprise. Le secret, nous n'avons que peu de pertes, et les produits que l'on trouve facilement dans les supermarchés de Kyoto mais aussi de Tokyo se conservent longtemps. Donc il a fallu des années pour mettre au point ce système automatique. Dans une autre cuisine plus ancienne de Spread à Kyoto, d'où sortent 21 000 pieds par jour, ce sont quelques 50 salariés qui déplacent les plans. Une tâche dure, reconnaît une employée. Monsieur Inada dit s'être interrogé sur la pertinence écologique de tel système avant de lancer l'activité, mais d'autres raisons l'ont aussi motivé. Avec la pénurie de main-d'œuvre, la faible rentabilité du secteur agricole et la baisse de la production, je sentais la nécessité d'un nouveau système de production, a-t-il donc raconté. La moyenne d'âge des agriculteurs japonais est de 67 ans. C'est vrai que nous utilisons plus d'énergie comparé à une culture au soleil, mais nous avons en revanche une productivité plus importante à superficie égale, justifie-t-il. Les saisons ne comptent pas, en ferme verticale on produit 8 fois par an la même espèce de salade. Quant à la quantité d'eau, à 98% réutilisée en circuit fermé, elle est donc minime par rapport au volume utilisé en culture traditionnelle. Avec toutes ces astuces, j'estime que nous contribuons à une agriculture durable pour notre société, tranche le patron. Spread commence à reproduire le même schéma ailleurs au Japon pour rapprocher davantage le lieu de production du lieu de consommation. Une usine est en construction à Narita, près de Tokyo, dans la préfecture de Chiba, sinistrée cette année par deux puissants typhons. D'autres sont aussi en projet. L'étranger est également dans la ligne de mire, donc on peut facilement exporter notre système de production dans un pays très chaud ou inversement au climat froid pour y cultiver des salades. Avec la construction d'une usine à laitue de la même dimension, donc 32 000 pieds par jour, dans la préfecture de Fukushima, Mitsubishi Gas Chemical espère rejoindre bientôt Spread dans ce secteur dit de la Smart Agri, où sont aussi employés des dispositifs de surveillance distants et des drones. Pour le moment, le Japon compte environ 200 usines à laitue closes en lumière artificielle, mais la majeure partie sont de petite taille. Selon la société d'études spécialisée Inoplex, il y en aura 400 en 2025. Les salades sont ce qu'il y a de plus facile à produire dans ces conditions artificielles, mais fraises, tomates et autres produits pourront aussi être cultivés de la sorte avec des systèmes contrôlés par ordinateur. Voilà, on va pouvoir tout de suite s'écouter une autre chanson. C'est Alone de Kara, une chanson extraite de l'OST du drama My Girl. Et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Oh,
C'était Cara avec la chanson Alone, une chanson extraite de l'OST du drama My Girl. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc après avoir été teasé, le premier passage européen du groupe sud-coréen ONF a finalement été annoncé par HXL Events. La tournée contiendra donc 3 dates. Donc on aura le 4 avril 2020 à Paris, le 9 avril à Sofia et le 11 avril ensuite à Lausanne. Voilà. Plus de détails sont à venir. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a comme information. Si ça vous intéresse, restez connectés. Voilà, c'est tout. Alors du coup, on s'écoutera Fly Me to the Moon de ONF pour finir l'émission. Demain, vous retrouverez Philippe avec la matinale qui est de retour pour la nouvelle année. Donc ça sera de 7h à 10h et de 10h à 11h30, ça sera Roland pour l'émission Bonjour. Moi, vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour mon émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h, comme d'habitude sur Neptune pour une nouvelle émission.